attends, j'ai oublié un truc.
Mais qu'est-ce que c'était?
C'est...
Ça paraît des mots, mais c'était pas des mots.
De toute évidence, Adam invente alors l'hébreu.
Avec la langue.
Oh, je sais plus.
Je pensais que vous me dites que nous parlions en japonais.
Avec la langue.
Oh, je suis au bout de la langue, ça m'énerve.
Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Laetitia Koya.
Alors avant, Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois.
Linguam nostram, in qua nati sumus.
Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence l'anglo-américain, ni de faire entendre des accents de Cassandre, d'être une Cassandre à cocarde.
Avoir sa propre langue comme un trésor et pas comme une prison.
Il est de bon ton d'affirmer que le XXe siècle a commencé en 1914 pour se terminer en 1989, le XXIe siècle commençant pour sa part le 11 septembre 2001. En Nouvelle-Calédonie, du point de vue kanak, le XXe siècle se termine en 1988 avec le massacre de la grotte d'Ouvéa et commence en 1917 avec une révolte et une répression liées de près à la Grande Guerre. En effet, par le truchement d'un pasteur indigéniste qui se faisait agent recruteur, des soldats kanaks sont allés servir de chair à canon sur les champs de bataille du nord et de l'est de la France. La guerre se faisant encore plus vorace à partir de Verdun, un nouveau tribut est réclamé aux tribus kanaks. Celles-ci se révoltent contre les représentants et les supplétifs de cette métropole qui réclame d'autres volontaires, des vivants enrégimentés, alors que les corps des morts n'ont pas été rapatriés, privant les survivants de cérémonies cruciales. La répression coloniale, qui s'abat, les armes à feu ne laissant aucune chance aux saguets, détruit en 12 mois la révolte et apparemment toute résistance. C'est alors que la langue et la mémoire prennent le relais dans la longue nuit kanak. Des pensées, des écritures et des voix se mettent en branle pour restituer et transmuer l'expérience de guerre. Cette souffrance inaugurale, ce cataclysme furieusement moderne, marque l'entrée dans une autre époque, faite de souvenirs et de revendications tressées sans fin. Un livre magnifique donne à entendre ces cris et chuchotements kanak surgis ou concoctés de 1919 à 2012, « Les sanglots de l'aigle pêcheur », publié par les éditions Anacarsis à Toulouse. L'un des trois co-auteurs, l'anthropologue et forcément linguiste, Alban Bensa, est notre invité. Pourriez-vous d'abord nous dire comment la collecte politique et patrimoniale d'un tel matériau s'est imposée à vous, fût-ce dès votre arrivée sur le terrain au début des années 1970. J'imagine que vous aviez en tête un sujet de recherche scrupuleusement élaboré à Paris. Que s'est-il passé sur place? Avez-vous été requis par le souffle et la mémoire de l'insoumission travaillant souterrainement la Grande Terre? Comment êtes-vous devenu une sorte de héros, AUT, de ces héros OS, Alban Bensa?
Au début, je n'avais pas conscience que j'arriverais un jour à collaborer à ce livre et à présenter ces voix et ces écrits magnifiques kanak. J'étais dans un contexte ethnolinguistique où ce qu'on nous demandait, ce qu'on m'avait demandé, c'était de me former, m'initier à une des langues kanak, le païki, et puis de recueillir ce qu'on appelait à l'époque la tradition orale, qui est une version un peu édulcorée du récit, de la parole politique. La tradition orale, c'est des contes, des légendes, des poésies, des berceuses, des récits, des mythes, mais de les recueillir en langue originale et ensuite de les traduire et éventuellement de les interpréter. Mais on était à l'époque dans quelque chose qu'on appelait comme une ethnologie de sauvetage. Voilà. Et c'est seulement petit à petit que j'ai pris conscience que pratiquement tous les textes, tout ce que je recueillais, convergeaient vers cette rébellion, cette guerre de 1917, qui avait été le grand traumatisme de mes interlocuteurs et interlocutrices environ 60 ans avant mon arrivée.
Vous êtes arrivé exactement en 1973.
Voilà.
Et il faut préciser, sans aller plus loin dans votre curriculum vitae, que vous étiez spécialiste du poids de la religion catholique dans une région de France qui était le Perche. C'était au départ vos recherches, Alban Bensa. Et ce livre, vous avez publié Les sanglots de l'aigle pêcheur avec deux autres auteurs qu'il faudrait rapidement présenter parce qu'il y en est un qui est Kanak et l'autre qui vient de la région, si j'ose dire.
Voilà, alors le Kanak, c'est Katué Yvon Golomwenda, qui est originaire de la tribu de Tiawe, et cette tribu a été fortement impliquée dans la guerre de 1917, des deux côtés, du côté des révoltés et du côté de la répression des auxiliaires kanaks qui ont aidé l'armée française à juguler, en quelque sorte, cette guerre. Et Katué Yvon Golomwenda est un kanak qui a réappris sa langue après l'avoir, non pas complètement perdu, mais un petit peu, pendant une dizaine d'années d'études au séminaire de Canala. Et aujourd'hui, il enseigne sa langue à Kone dans des collèges. Et l'autre chercheur qui nous a accompagnés dans cette entreprise, c'est Adrian Muckel, qui est un historien néo-zélandais qui a consacré sa thèse à partir des années 2000 à la guerre de 1917 et qui a publié en 2012 un livre remarquable qui fait une étude extrêmement fouillée. Il relève plutôt de la micro-histoire, de la micro-storia à la Ginsburg, et il décrit très précisément tous les acteurs, les personnages. Et donc nous nous sommes retrouvés autour de ces documents, lui pouvant remonter de l'oralité aux archives et moi l'aider à interpréter les archives à partir de mes généalogies. Et donc on a fait un travail très collectif.
Alban Bensa, j'entends par deux fois le mot « guerre » dans votre bouche. Et je pense que c'est parce que ça a été si longtemps mal ou non nommé, les événements, dit-on toujours, dans les métropoles coloniales. Néanmoins, pour nous, la guerre de 1917, pourriez-vous dire, je crois qu'il y avait à peu près 1000 Kanaks qui avaient été envoyés dans une première fournée de volontaires, entre guillemets. Oui. La deuxième fournée, en janvier 1917, en réclamait peut-être 1000 autres.
Oui.
Combien sont morts et en France sur les champs de bataille, et combien ont été victimes de la répression que vous appelez « guerre de 1917 »
Alors, on évalue à environ 400. Toutes catégories confondues, parce qu'il y avait des Kanaks, mais il y avait aussi des Calédoniens non Kanaks qui sont engagés ou qui ont été désengagés volontaires, entre guillemets, pour la guerre de 14, et qui sont morts soit au combat. Beaucoup de Kanaks sont morts aussi de désespoir, enfin, avant même les combats. Certains sont morts au combat, d'autres sont morts de maladie, d'inadaptation. C'était terrible pour eux d'arriver à Marseille dans ces bateaux.
En laissant des témoignages, parfois, de ce désespoir?
Oui, oui, beaucoup. Des cartes postales, des écrits. Les gens maîtrisaient assez bien l'écriture ou des interrogatoires quand ils ont été interrogés. Donc, il y a un corpus d'archives important.
400 personnes, donc, venant du Caillou.
Venant du Caillou, qui sont tombés en 1917, enfin, pendant la guerre de 14, entre 14 et 18.
Et à partir d'avril 1917, quand commence cette révolte que vous appelez guerre, là, il y aura combien de morts?
Alors, une vingtaine d'Européens seront tués, aucun militaire, mais des Européens isolés, des colons isolés, des familles isolées qui ont subi la vindicte des Kanaks pour des raisons de spoliation foncière, de mauvaises relations anciennes. Là où les colons avaient des bonnes relations avec les Kanaks, il s'est rien passé. Là où il y avait des mauvaises relations, puis aussi des gens qui s'occupaient des mines, qui gardaient les sites miniers, etc. Par contre, du côté des Kanaks, Adrian Muckel évalue à peu près à 300 le nombre de personnes, mais sur une population de 6000 personnes concernées par cette guerre. Alors, cette guerre, elle a bien sûr fait des victimes. Elle a aussi bouleversé l'existence des gens, parce que il y avait déjà des réserves à cette époque-là. Mais comme on était dans une région un petit peu éloignée des centres coloniaux principaux, il y avait une tolérance, c'est-à-dire beaucoup de gens qui étaient installés dans la montagne, dans les forêts ou à la limite des qui n'étaient pas contrôlés. Tous ces implantations un peu sauvages, si vous voulez, ont été entièrement détruites. Et à partir de 1918, 1919, 1920, là, vraiment, le code de l'indigénat va visser les Kanaks dans leurs réserves de façon très dure jusqu'en 40, parce que l'arrivée des Américains dans le cadre de la guerre du Pacifique a un petit peu desserré les taux et surtout a donné de bonnes idées aux Kanaks pour essayer de changer les choses.
Quand vous arrivez plus de 50 ans plus tard sur place, on l'a dit en 1973, Alban Bensa, cette parole vous saute aux oreilles, si j'ose dire, et je propose que nous puissions entendre un enregistrement par vous réalisé en
1973.
Ce que nous entendions à l'instant, cette femme, donc, vous l'avez enregistrée, Alban Bensa, vous souvenez des circonstances, du matériel et de cette personne ?
Oui, oui, j'étais avec mon ami et collègue linguiste Jean-Claude Rivière et nous avions demandé aux gens, est-ce qu'on voudrait enregistrer des poésies qu'on appelle là-bas Ténon. Et ils nous ont dit, venez dimanche. Et voilà, on s'est installé sur une natte, on a branché notre gros magnétophone UR à pile avec un gros micro, et ils ont fait venir cette dame, Émilie Poulounde, et elle a démarré au quart de tour avec cette poésie. C'est une poésie qui fait 800 vers, qui figure dans le livre. Là, elle en a donné 200. J'étais complètement saisi par la beauté, la mélodie. Et ensuite, ils ont chanté une partie de ce ténon, de cette poésie, parce que ces vers de 8 pieds donnent lieu à des chants polyphoniques, avec deux chanteurs qui se répondent pendant que des gens tapent sur des bambous, sur des cartons. Et donc, on est passé de la poésie au chant, et puis du chant à la poésie. Mais ensuite, ce document, il est resté très longtemps dans nos cartons. Il a fallu que des gens nous le redisent, cette poésie nous la redise lentement pour qu'on puisse l'écrire et puis ensuite la traduire. Bon, il nous avait dit, c'est sur la guerre de 1917. On a donc, et souvent, je notais, j'enregistrais, les gens me disaient, c'est sur la guerre de 1917, c'est sur la guerre de 1917. Mais, alors d'abord, on n'avait pas les travaux de l'historien Adrian Muckel, et puis, l'anthropologie était hors du temps, si vous voulez. On n'était pas préparé à une approche historique. Et en fait, si ce livre est sorti si tard, c'est aussi parce que petit à petit, j'ai pris conscience que la meilleure entrée dans un univers social à décrire, c'était l'action, c'était une guerre, c'était un événement ou des événements, plutôt que de donner une image statique de la société, comme le fait souvent l'anthropologie.
Alors, nous avons entendu dans votre bouche, Alban Bensa, le mot « ténon » qui s'écrit en français, c'est transcrit T-E accent aigu, N-O accent circonflexe peut-être,
oui, c'est ça.
Qui se prononce donc Ténon, qui est une sorte de poésie de circonstance en vers octosyllabique, dont chaque strophe est récitée sur une sorte de souffle seul et singulier. Et ce genre épique, par définition, j'ai tiré ces quelques informations d'un article par vous, écrit avec Jean-Claude Rivière, cité tout à l'heure, de quelques genres littéraires dans la tradition orale Paichi. C'est en 1976, donc dans le journal de la Société des Océanistes. La langue Paichi, qui s'écrit en français P-A-I-C-I, accent circonflexe, mais qui se prononce donc Paichi, est une des 28 langues en cours en Nouvelle-Calédonie ou en Kanaky, et c'est la langue même de ce genre qu'est le ténon, n'est-ce pas ?
Oui, C'est en Païti que nous avons les dénoms les plus importants. Il en existe aussi dans la langue qui est parlée au sud, en Indien, et puis la langue plus au nord, le Tiémouni. Mais c'est en Païti qu'on a des créations aussi longues, aussi amples, et c'est là que nous en avons recueilli le plus, y compris notre ancêtre, le pasteur Maurice Lénard.
Qu'est ce pasteur dont je parlais au début, voilà, qui est enrégimentait.
Voilà, il avait eu aussi comme fonction d'enrégimenter ou de convaincre les Kanaks de partir pour la Grande Guerre, mais en même temps, il a joué un rôle très important dans la fondation du regard ethnologique en Nouvelle-Calédonie. Et il a recueilli beaucoup de choses, de documents, par exemple, sur la guerre de 17. Il a demandé aux acteurs ou aux observateurs, il a dit, écrivez-moi cette guerre pour que je puisse témoigner au procès, savoir un peu ce qui s'est passé. Et les gens l'ont écrite en vers de 8 pieds. Ils lui ont donné une soixantaine de pages. Et deux des ténons qui sont publiés dans ce livre viennent de cette documentation. Mais par exemple, il y a un passage de l'oral à l'écrit, puisque la dame qu'on vient d'entendre, en fait, redit oralement un texte dont il existe une version écrite en 1919. Et les Kanaks ont capturé l'écriture très tôt avec les missionnaires. Les missionnaires avaient beaucoup de mal à faire passer leur message, faisaient des traductions. Et comme les Kanaks l'ont dit souvent, quand on a vu l'écriture, on a trouvé ça pratique. Donc, d'ailleurs, c'est expliqué dans un idée. Monsieur dit, c'est pratique parce qu'on peut envoyer un message et après, quelqu'un peut le lire de très loin. On n'a pas obligé d'aller le voir, si vous voulez. Voilà. Et ils se sont mis à écrire dès les années 1870-1880. Mais évidemment à l'articulation de leur propre mode d'expression. Et comme le mode d'expression, disons, de tout ce qui était événementiel, historique, que ce soit des mariages, des deuils, des guerres, des micro-conflits, des voyages, des déplacements, tout ça s'exprimait dans un mode qu'on pourrait dire journalistique kanak, qui était le ténon. Là, c'est ténon, d'ailleurs, ça veut dire la nouvelle, la rumeur.
Et cette rumeur, ce ténon, nous allons en entendre avec une traduction qui, précisément, fait état des emprisonnements qui ont suivi la guerre de 1917 dont vous parlez. Et tout cela figure dans un magnifique CD de 39 minutes qui accompagne le livre que vous avez publié, Les sanglots de l'aigle pêcheur.
Nous sommes en prison, nous sommes entrés sans délai, alors que monte la fatigue, alors qu'arrive la maladie, le mal qui nous jette à terre, jusqu'à chier du sang. Nous sommes écœurés, et ça nous racle comme un peigne. Cela nous épuise, et nous nous sentons mal. Point tombe en roulant. Chaou tombe et trébuche. Poiroya se couche. Poiroya se couche et il est emporté. Nous étions dans la maison enfumée, debout, dans la baraque en tôle. La maison où il faisait froid, dans la maison glaciale, la maison à l'ossature de pierre.
Les Kanaks ont été arrêtés dans la région de Koné, où la guerre a éclaté, et ils sont transportés en bateau par les militaires français jusqu'à Nouméa, où ils sont mis en prison. Et ce passage évoque ce voyage. Pour certains, rentrer dans ces grands bateaux de ferraille, ils avaient eu des pirogues autrefois, mais elles ont été détruites dès les débuts de la colonisation pour les empêcher de circuler. Et donc, c'était déjà en soi une aventure. Et puis, ils sont jetés en prison à Nouméa, et là, ils souffrent énormément du froid, des mauvaises conditions, du manque de nourriture, de la promiscuité, et ils ont comme un doute sur le bien fondé de leur lutte. Ils se sentent abandonnés par les chefs administratifs qui ont accepté de mener la répression, tout en jouant parfois double jeu, en les encourageant aussi parfois à se révolter. Il y a eu des attitudes comme ça ambiguës. Et là, il y a un grand moment de désespoir qui est décrit dans ce passage. Toujours très concret, l'ossature de la maison de pierre. Alors toujours ces métaphores, ces images qui essayent de s'emparer de la modernité à partir d'un vocabulaire qui était celui de maison en bois, de cases, de pirogues, etc. Et ce qui est intéressant en 17, c'est cette explosion de créativité poétique pour, en quelque sorte, rendre compte de l'originalité de ces événements qui n'avaient jamais vécu. Les fusils, les bateaux de guerre, il y a eu quelques combats navals dans le Pacifique. Les gens lisaient les journaux, ils étaient au courant de beaucoup de choses. Et donc, On a souvent présenté la guerre de 17, enfin jusqu'à ce livre, elle a été présentée, sauf par Adrian Muckel, mais elle a toujours été présentée en Nouvelle-Calédonie. On appelait ça la queue de la comète, un retour du traditionalisme. Si vous voulez, un retour, c'était des gens qui n'étaient pas bien christianisés, qui étaient encore sauvages.
Mais il y avait eu, Alban Bensa, une immense, une importante révolte en 1878.
Oui, la révolte de 1878 a été énorme, si vous voulez. 2000 Kanaks ont disparu, ont été chassés. Le sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie a été ouvert à la propriété coloniale, si vous voulez. Et cette répression a été telle qu'on pensait que c'était fini. Et quand 1917 redémarre, on l'interprète à la lumière de la première, de la première révolte. Alors qu'en 1917, c'est pas du tout la même chose. Les Kanaks demandent à ce qu'on desserre l'étau colonial. Ils veulent faire de l'élevage, ils veulent pouvoir circuler, ils veulent pouvoir planter du café. Ils obtiendront finalement l'autorisation. Ils comprennent pas qu'on les envoie à l'école, qu'on les oblige à apprendre le français, qu'on les fasse entrer dans le dispositif colonial et qu'en même temps, on les laisse à la marge. Et ça, ça va être très très bien développé par Apengu Wanglul, un des guerriers meneurs de cette guerre, qui comprend pas pourquoi on ne veut pas faire de place aux Kanaks dans l'espace qui est en train de se construire, dans l'espace économique nouveau.
Vous parliez du froid, Alban Bensa. Ce qui marque aussi, c'est la présence du feu. Nous avons brûlé nos paroles et il est un ténon où le feu qui brûle est omniprésent. Je lis juste le tout début de ce ténon. On y entend « Nous deux regrettons le pays. Nous deux pensons aux chefferies. Nous regrettons les lieux sacrés, car tout ce qui vit a brûlé. » Tout est brûlé, suivent des noms de lieux. Et à la fin même de l'extrait que vous donnez, nous partons déposer des paroles. Nous faisons le geste d'alliance et contournons les nœuds de guerre des paroles juste bonnes à brûler. Alors, c'est un immense incendie.
Oui, les Kanaks vivent ça comme la fin de leur civilisation, si vous voulez. Ils ont l'impression que, parce que tous ces sites autrefois habités, tous ces lieux sacrés, ces cimetières où les ancêtres étaient enterrés, tous ces espaces sont détruits par la colonisation qui pratique la politique de la terre brûlée, pour affamer les gens, détruire les cultures. Parce que dans les combats, c'est difficile. Souvent, ils ne sont pas gagnants parce que les gens connaissent mieux le terrain. Ils avaient quand même réussi à voler quelques fusils, etc. Donc, on brûle tout. Et à la fin, ils ont l'impression que l'Église, parce que c'est l'Église qui est en jeu, les invite à brûler tous leurs fétiches, toutes leurs paroles sacrées, tout ce qui faisait l'unité de leur pays. Et là, dans ce texte-là, et ça m'a frappé dans ces textes de 1917, cette critique implicite de l'arrivée de la religion chrétienne dans le sillage de l'armée. Si vous voulez.
Alors, fin de cycle, dites-vous, Alban Bensa, mais également, on le comprend à lire votre livre, début d'un processus langagier, et ça va plus loin, puisque dans votre avant-propos, vous écrivez « La prise de parole littéraire peut bouleverser le monde établi quand elle nous projette sur une autre scène en écho aux accélérations de l'histoire et inversement. Pas de bouleversement politique sans changement de régime narratif. » Donc c'est ça qui est passionnant, je trouve, dans votre livre, c'est de voir précisément ce qui meurt et ce qui naît.
Oui, et là, si vous voulez, alors que la colonie au sens large pense qu'avec la répression de 17, c'est terminé, les Kanaks survivants, leurs familles, se réfugient dans une autre forme de combat, qui est un combat par la mémoire, engrangé, tout ce qui s'est passé. Alors, il y a plein de petits ténons des toutes petites exactions, des tout petits déplacements. Il y en a des centaines, si vous voulez. Et puis, il y a quelques grands dont on a publié. Mais il y a ce souci de garder mémoire de tout ce qui s'est passé, de tous les endroits qui ont été détruits, de tous les endroits qu'il a fallu abandonner, avec l'idée qu'un jour, cette mémoire pourrait servir à une reconquête. Et c'était tout à fait émouvant, mais on ne l'a pas compris tout de suite. Quand nous sommes arrivés, d'abord le grand linguiste André-Georges Audricourt, puis Jean-Claude Rivière, puis moi et quelques autres, les gens venaient vers nous avec des cahiers pour être enregistrés, nous demander si un jour ils seraient dans un livre. parce qu'ils avaient parfaitement conscience que c'était des créations qui étaient à la fois esthétiquement fortes et qui en même temps gardaient la mémoire de ce qui s'était passé.
Alors ce qui est extraordinaire dans cet énon et cette littérature, Alban Bensa, c'est que tout cela se projette dans le temps, vous venez de le dire, mais ces poèmes font preuve d'une vision spatiale et de raccourcis spatiaux propres au Kanak. Il y a là une quatrième dimension qui nous a toujours manqué. Par exemple, ils sont poussés dans la forêt, abandonnés jusque dans les bois. Ici, en des lieux difficiles, se tiennent là sur une île, sont installés sur un îlot. Ils habitent en terre insulaire, le pays que l'eau entoure. Là, il se passe un phénomène que vous pourriez nous expliquer.
Oui, les Kanaks, autant que je comprenne, mais Chimbaou l'avait dit et bien dit, font du paysage le support principal de leur mémoire. Tous les lieux sont habités soit par des vivants, soit par des morts. Et donc, dès qu'on arrive dans un nouvel endroit, on s'inquiète de savoir qui sont les plus anciens occupants, où sont les sites sacrés. On fait attention, on parle bas. Si vous voulez, le paysage en lui-même est une sorte de temple dans lequel on avance avec circonspection parce qu'on sait qu'il est habité par les forces ancestrales.
Mais ce qui fait, par exemple, une tranchée du côté de la Somme pourra être reliée par l'imaginaire et la mémoire à une forêt kanak.
Oui, alors dans la rhétorique du ténon, il s'agit de dire plusieurs choses à la fois. C'est la rhétorique de la poésie, vous me direz. Dire plusieurs choses à la fois, évoquer à la fois une forêt de Nouvelle-Calédonie, mais aussi des bois ou ces poteaux qui étaient dans les tranchées. Évoquer une case et évoquer des tas d'obus. Voilà, il y a tout un passage où évoquer le seuil de la case et on dit qu'il est rempli d'armes, si vous voulez, faire des allusions. C'est-à-dire comprendre le monde dans une sorte de translation, par translation, ce qui est vécu dans les tranchées, repris dans un imaginaire local, et ce qui est dans l'imaginaire local permet de comprendre les tranchées. Il y a eu une entrée dans la modernité par un croisement des images. Voilà, un croisement
des images.
C'est
presque une sorte d'Apollinaire cosmique.
Oui, il y a quelque chose qui m'a frappé, si vous voulez, 1917, voilà, Apollinaire est... Bon, malheureusement, il est mort en 18, mais et puis après, il y a eu tout le mouvement surréaliste. Et là, dans certains passages, on voit bien quelque chose comme des imaginaires qui se fracassent et qui se fondent, si vous voulez. C'est-à-dire l'expérience des avions, l'expérience des obus, de cette mitraille épouvantable de la guerre de 14, elle va être réinvestie dans les ténons, y compris pour décrire la guerre de 1917, qui n'a jamais eu, évidemment, ce niveau d'implication des armes et de fureur. Mais essayer de restituer son expérience et de capter dans cette expérience, par exemple, tous les bruits. Vous avez sûrement remarqué combien ces ténons accordent d'importance à tout ce qui est sonore. Il y a un vocabulaire d'une richesse incroyable pour rendre compte de tous les bruits. Et donc, cette nouvelle expérience sonore, ces nouvelles expériences visuelles, sensorielles, apportez-nous du sucre, apportez-nous l'électricité, apportez-nous la bougie, etc., une fascination pour les hélices des bateaux, pour les manœuvres des bateaux, les ancres métalliques qui font des grondements comme le tonnerre, etc. Et là, je pense que il y a eu une sorte de rencontre formidable qui a donné lieu à une création exceptionnelle qui est révélée pour la première fois dans cet ouvrage.
C'était Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault avec Alban Bensa pour Les sanglots de l'aigle pêcheur, Nouvelle-Calédonie, la guerre Kanak de 1917, qu'il a coécrit et qui est publié aux éditions Anacharsis. Un grand merci à Thierry Beauchamp. Prise de son, Claude Miord. Réalisation, Laetitia Coya. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter T
télécharger, voire commenter en ligne cette émission sur le site de Tire-ta-Langue, niché dans franceculture.fr. Pour l'heure, il est temps de retrouver Charles Danzig, secret professionnel.
Yeah.